qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
Ce n'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes. Cette conversation mondiale...
La parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pose et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, la conversation mondiale dans laquelle deux intellectuels, deux artistes ou deux écrivains dialoguent sur la crise que nous sommes en train de vivre. À l'ordre du jour ce soir, la crise du coronavirus est-elle une crise de confiance? La situation était déjà tendue avant l'arrivée du virus en France. La crise des gilets jaunes était analysée par les politiques et les sociologues comme une coupure entre le peuple et les élites qui n'auraient plus du tout confiance les uns dans les autres. Mais le coronavirus et son installation pour une longue durée dans nos sociétés a accentué la méfiance d'une partie des citoyens vis-à-vis des institutions publiques ou des entreprises privées comme les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi éroder la confiance qui fait la société. Tous les gestes qui signifient la prise de contact entre humains sont transformés en gestes barrières, tandis que les confinements nous séparent les uns des autres. S'il y a bien un endroit où la confiance s'est maintenue, c'est la Nouvelle-Zélande, pays dans lequel vit l'illustratrice Sarah Wilkins, qui a eu la gentillesse de nous offrir un court texte et une illustration titrée « Trust » pour accompagner la discussion entre nos deux invités qui sont Marc Hunyadi. Bonsoir Marc Hunyadi.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de philosophie sociale et morale et politique à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et bonsoir Claudia Sénic.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en économie à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Et vous venez de publier « Crise de confiance pour l'une ». C'est un livre collectif sous votre direction. Ça sort la semaine prochaine à la découverte. Claudia Sénic et Marc Hunyadi, vous venez tout juste de publier. C'est aujourd'hui en librairie, enfin quand les librairies sont ouvertes, ou en cliquer et emporter, comme on dit, au bord de l'eau. Au début et la confiance. Mais auparavant, commençons par une leçon de confiance de la bouche de celui dont on vient d'apprendre la disparition, une disparition qui nous touche particulièrement, le résistant Daniel Cordier, qui le 17 juin 2010, 50 ans après son départ pour Londres, racontait cela au micro des Matins de France Culture.
Jean Moulin était le chef, enfin, le représentant de Londres, du général de Gaulle, et c'est lui qui commandait aux quelques agents, j'étais le quatrième, aux quelques agents de Londres qui lui étaient parachutés. Et donc, quand nous arrivions en France tous, eh bien, la première personne que nous rencontrions, c'était lui. Et là, ce qui a été curieux, c'est qu'il m'invite à dîner. Bon, enfin, après tout, pas. Et ce repas, c'était extrêmement détendu, ça n'avait aucun rapport avec la guerre. Parce que il m'a demandé, il était intrigué, il voulait simplement savoir quelle avait été ma jeunesse, enfin. Et alors, tout d'un coup, avec cet homme qui mangeait, qui avait commencé à dîner, enfin, c'est moi qui me regardais, et qui me regardait très gentiment. Il avait 43 ans. Et alors, au fond, ça m'a donné confiance. Et puis alors, ça a duré assez tard. Après, il m'a posé quelques questions sur Londres et tout ça. Et nous sommes rentrés chez lui dans la nuit et tout ça. Et devant chez lui, il m'a dit, regardez le numéro et vous viendrez demain matin à 7h. Je vous garde comme secrétaire. Et il m'a serré la main. Il a rentré, la porte était une vieille porte en bois qui a claqué, et je me suis retrouvé tout seul dans la nuit.
C'était la voix inimitable, pourrait-on dire, de Daniel Cordier, dont on vient d'apprendre la disparition et qui donc sera présent aussi dans la mémoire de Jean-Noël Jeannet ce soir à 22h dans le journal de 22h, de Jérôme Clément qui a réalisé les Avoies nues avec Daniel Cordier. Il sera demain matin au matin du samedi sur France Culture et toute la semaine prochaine à 20h. Vous pourrez réentendre ces 5 numéros d'Avoies nues avec Daniel Cordier. J'ai voulu commencer cette émission, Claude Assénic, et avec vous également Marc Hunyadi, pour justement dire ce que sont les relations interpersonnelles qui fondent cette question de la confiance entre êtres humains. On va au restaurant, on ne se connaît pas, on est en pleine résistance, on ne sait pas qui est celui qui est en face de soi. Et néanmoins, Claudia Sénic, eh bien, on va devenir le secrétaire de Jean Moulin.
Oui, c'est extraordinaire de voir comment dans des situations aussi risquées, aussi incertaines, avec des enjeux aussi énormes, la confiance joue un rôle clé. Et c'est toujours le cas, en fait, dans la moindre des relations sociales ou même commerciales ou politiques. La confiance, c'est ce qui permet d'anticiper les comportements des autres, le fonctionnement du monde et de s'engager et d'agir. Ouais. Et le monde serait un chaos si on n'avait pas confiance dans un certain ordre, en fait, qui le rend anticipable et lisible.
En pleine guerre, évidemment, Marc Hunyadi.
Oui, cet extrait est tout à fait extraordinaire. Vous n'auriez pas pu trouver une plus belle illustration de ce que moi-même je veux dire dans mon livre sur la confiance, parce que justement, il faut se rappeler quand même que Daniel Cordier vient du patriotisme d'extrême droite,
absolument,
si on veut.
Il était Action Française avant la guerre, il avait 17 ans au moment où la guerre se déclenche, et effectivement il était Action Française, et il va l'avouer d'ailleurs tout de suite à Jean Moulin. Il sera toujours étonné d'entendre Jean Moulin, enfin de voir que Jean Moulin n'en fait pas de cas, puisqu'il est avec lui. Exactement. En 1942, et eh bien c'est cela qui compte.
Exactement, c'est tout à fait extraordinaire, et cela montre à mon sens combien la confiance, contrairement à ce que veut nous faire croire une certaine économie, une certaine sociologie contemporaine, combien la confiance n'est pas un calcul. Jean Moulin et Daniel Cordier se sont trouvés face à face. Ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas fait des hypothèses sur des comportements futurs des uns et des autres. Ils ont au contraire parié sur la base, en l'occurrence, sans doute d'une intuition, sans doute d'un bon contact relationnel. Mais ils ont parié sur le comportement de l'un et de l'autre en dépit des informations qu'ils détenaient l'un sur l'autre. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et donc, ça illustre une thèse que je crois tout à fait fondamentale, c'est que la confiance n'est pas le calcul.
Oui, et ça, évidemment, c'est une pierre dans votre jardin. Vous êtes économiste, mais vous n'êtes pas justement de ces économistes qui pensent justement à ce simple calcul. Claudia Sénic, qu'est-ce que vous pensez justement de ces tensions qu'il y a autour de ce terme de confiance qu'il peut y avoir entre différentes approches de ce qu'est la confiance dans nos sociétés?
En fait, on a redécouvert, redécouvert, je dirais, depuis 20 ans, à quel point la confiance est un élément central dans l'économie. C'est pas le résultat d'un calcul conscient, effectivement. C'est plutôt quelque chose qui se crée, soit de manière spontanée, au gré des interactions répétées entre les gens qui font qu'on finit par se connaître, on finit par savoir, de manière plus ou moins informelle, comment on va se comporter. Il y a des normes qui émergent. Ou alors, à défaut, on peut essayer d'organiser les choses par le contrat. Et il faut que le contrat lui-même repose sur la loi. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait confiance dans le fait que la loi va s'appliquer. Et donc, il y a tout l'appareil
dans les institutions,
juridique dans l'institution. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait confiance dans les institutions. Donc, en fait, on s'en passe pas. On peut pas l'éviter.
Oui, c'est ce que vous dites aussi, d'ailleurs, Marc Hunyadi, même si vous avez une réticence par rapport à cette question du contrat, dont vous dites qu'elle est issue d'un univers, enfin qu'elle s'est construite, cette question du contrat, dans un univers anglais puis anglo-saxon, et qu'effectivement, ça n'est pas le tout de la confiance dans nos sociétés, Marc Hunyadi.
Oui, pas du tout. Tout à fait, le contrat est un cas très particulier. Et je me réjouis que Claudia Sénic, économiste, reconnaisse au fond cette importance de la confiance, mais c'est pas du tout majoritaire, disons, dans sa discipline, dans l'économie. Et au contraire, je pense que ce sur quoi il faut insister, c'est que la confiance est quelque chose de global. La confiance est ce dans quoi nous séjournons d'une manière générale, ce dans quoi nous séjournons, et ce pour n'importe laquelle de nos actions. Le fait d'être assis sur une chaise maintenant implique au fond de la confiance, puisque je m'attends à ce que le siège ne s'effondre,
bien sûr,
s'effondre pas sous moi, etc., etc. Donc la confiance fait partie, si vous voulez, de la structure fondamentale de notre relation au monde d'une manière générale. Et les situations à risque qu'aiment les économistes, qu'aiment analyser les économistes, sont une infime partie au fond, sont vraiment quelque chose de très très rare au fond dans notre quotidien, et très particuliers, sont une infime partie de ce que peut représenter la confiance, qui est un tout englobant, parce que la confiance est fondamentalement relation au monde et pas relation simplement au risque voyez.
Claudia Sénic, dans le livre que vous avez dirigé sous votre direction, qui sort la semaine prochaine aux éditions de la Découverte par la Fondation pour les sciences sociales, la collection Recherche, c'est un livre avec tout un tas d'exemples de cas, pourrait-on dire, autour de la question de la confiance, qui sont très riches. Vous dites en fait la crise de confiance, puisque il s'intitule crise de confiance, ne date pas de la crise du coronavirus. Le titre de notre émission d'aujourd'hui, c'est la crise du coronavirus. Est-elle une crise de confiance ? Et vous expliquez bien que non, la crise de confiance, elle était là avant. Je parlais des gilets jaunes en ouverture. C'était déjà une crise de confiance, en tout cas dans notre propre pays.
Oui, bien sûr. En fait, quand on a lancé ce thème, parce qu'en fait, la manière dont la Fondation pour les sciences sociales fonctionne, c'est de trouver un thème, faire un appel à projet et puis sélectionner une douzaine de chercheurs qui vont travailler ensemble pendant un an sur ce thème. C'était bien avant la crise du Covid, puisque c'était en 2019. Et c'était plutôt effectivement motivé par les gilets jaunes, la demande de réforme de la démocratie et le sentiment qu'il y a une sorte de défiance, certains discours assez forts de défiance envers tout ce qui pourrait se réclamer d'une autorité affirmée, les experts, le savoir scientifique, le pouvoir politique et même les médias en fait. Donc tout ce qui pourrait ressembler à une sorte d'élite autorisée se voyait remis en cause au nom de un certain peuple mythique qui aurait été lésé et dont on ne s'occuperait plus des intérêts.
Oui, et d'ailleurs la crise du coronavirus intervient en tout cas en France après cette crise des gilets jaunes. On va de crise en crise et cette crise du coronavirus a la particularité, c'est pour ça que nous avons inventé cette émission La Conversation Mondiale, d'être mondiale justement et donc de mettre tous les pays à l'aune de cette crise et de ce virus. Et Sarah Wilkins, donc illustratrice néo-zélandaise, a eu la gentillesse de nous faire un très beau dessin, une très belle illustration que vous pouvez voir sur le site à la page France Culture, La Conversation Mondiale, et de nous écrire un petit texte où elle nous dit ceci. Elle dit « La confiance a été la clé du succès de la riposte néo-zélandaise au coronavirus. À ce jour, la Nouvelle-Zélande a enregistré environ 1650 cas et 25 décès. Je suis reconnaissante de vivre dans un pays où la population coopère beaucoup et fait confiance à une politique transparente et intelligente. » Marc Cugnadi, ça dit quelque chose justement, cette crise du coronavirus, sur la façon, puisque c'est une sorte de mise au banc, pourrait-on dire, on met au banc chacun des pays, on regarde comment ils ont réagi vis-à-vis de cette crise.
Oui, si vous voulez, la crise du coronavirus, c'est surtout les mesures qu'on a prises. Par exemple, mesures de confinement ont, à mon sens, montré combien, en temps normal, si vous voulez, la confiance est importante dans notre relation au monde, puisque justement, ces mesures de confinement et toutes les mesures qui l'accompagnent ont, en quelque sorte, suspendu notre relation au monde dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, la relation aux objets, avec simplement ce que nous touchons, les aliments que nous touchons en magasin, etc.
C'est plus la confiance, c'est la suspicion, en l'occurrence, qui est entrée dans nos vies. Enfin, une suspicion plus grande encore. La suspicion vis-à-vis des objets, vis-à-vis de l'autre qui est en face de nous, etc.
Et donc, ça montrait par la négative, en quelque sorte, combien, en temps normal, la confiance est quelque chose d'important. C'est-à-dire le fait de pouvoir toucher spontanément les objets sur un étalage, le fait de pouvoir se parler, s'embrasser, etc. Le rapport aux institutions, tout ça a été suspendu, précisément, par le coronavirus. Donc, justement, ça montrait combien la confiance est quelque chose dans quoi nous séjournons. Maintenant, en ce qui concerne les politiques gouvernementales, je pense que cette crise illustre aussi parfaitement, au fond, les deux moments de la confiance, je dirais. D'un côté, il y a tout ce qui simplement dispose à la confiance, mais qui n'est pas encore l'action. C'est-à-dire, nous sommes disposés à avoir confiance, nous sommes disposés à agir, mais nous n'agissons pas encore. Et la vraie confiance, c'est-à-dire le faire confiance, non pas l'avoir confiance qui est une simple disposition d'esprit, si vous voulez, mais le passage à l'acte qui est vraiment avoir confiance, eh ben ça c'est véritablement un acte et au fond c'est le seul acte qui prouve la confiance. Alors par exemple le cas du vaccin dont on parle énormément en ce moment évidemment est parfaitement illustratif de ces moments. C'est-à-dire que il se trouve que les populations, nous connaissons tous ces statistiques, ont une sorte de défiance à l'égard du vaccin, c'est-à-dire que bon, ils ne s'imaginent pas de devoir se faire vacciner. Tout le travail des gouvernements et des autorités de santé publique sera de au fond convaincre suffisamment, c'est-à-dire d'agir sur la disposition à avoir confiance pour que les citoyens fassent véritablement confiance et donc se fassent vacciner, ce qui sera l'acte par lequel ils prouvent leur confiance. Il y a au fond de confiance qu'en acte.
Oui, et c'est une véritable question. Claudia Sénic, qu'est-ce que vous pensez de cette démonstration de Marc Ognadi sur le faire confiance d'abord, le faire confiance ensuite et l'avoir confiance d'abord, c'est-à-dire les deux stades
Les deux jours, en fait, quand on parle des politiques, la crise du Covid est une crise sanitaire, bien sûr, mais la confiance a joué un rôle dans la manière dont les populations et les gouvernements ont pu agir, par les premières mesures de confinement, après par le respect des mesures. Et en fait, quand on regarde tout simplement les données agrégées en comparaison de pays, on voit que les pays dans lesquels les gens se déclarent communément plus confiants dans le gouvernement, avant la crise du Covid, et bien en fait, ce sont des pays dans lesquels il y a eu aujourd'hui, demain, en cumulé, moins de morts et moins de récessions.
Ah oui.
Donc en fait, le fait d'avoir eu confiance dans le gouvernement, indépendamment des mesures qui ont été prises plus tôt, moins tôt, avec plus de restrictions pendant le confinement ou pas, ça joue aussi. Mais on voit vraiment, si on représente sur un graphique, là je l'ai sous les yeux, les pays par des points, on les voit s'aligner un peu gentiment comme ça, en fonction du degré de confiance dans le gouvernement. Ce qui montre l'importance, effectivement, de cet ingrédient social.
Oui,
donc si je puis me permettre,
Marc Ognadi,
vous illustrez parfaitement ce que je veux dire, c'est-à-dire que on fait confiance à un gouvernement, ça veut dire qu'on agit. Donc c'est une action. On agit dans le sens qui est recommandé par le gouvernement, par exemple en se confinant, en portant un masque, etc. Parce que on est par ailleurs convaincu, c'est-à-dire qu'on a confiance, hein, c'est l'avoir confiance, on a cette confiance suffisante pour respecter les instructions ou les recommandations gouvernementales.
Et dans son texte, Sarah Wilkins, qu'elle a confié donc au temps du débat pour la page de la Conversation mondiale, cette illustratrice qui nous a fait une très belle illustration, d'ailleurs qui illustre parfaitement notre sujet, puisque ce sont deux êtres qui sont emplis, pourrait-on dire, de virus et qui se serrent la main, et il y a une sorte de soleil qui sort de cette façon de se serrer la main, explique que, eh bien, tout au long de la pandémie, Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, a constamment fait preuve de compassion, de bonté, d'empathie et que cette humanité face à la pandémie a contribué à renforcer la confiance nationale. Ça va dans votre sens, Claudia Sénic ?
Complètement, parce que les pays qu'on trouve sur le graphique vraiment au plus haut de la confiance envers le gouvernement, c'est qu'on prenne la Norvège, la Nouvelle-Zélande justement, la Suisse, les Pays-Bas, ce genre de pays. Donc c'est pas du tout étonnant d'entendre ça. Et c'est vrai que quand on cherche à définir la confiance, alors moi, sans écrire un bouquin de philosophie entier sur ce sujet, mais quand on dit j'ai confiance en quelqu'un, on a confiance dans le fait qu'il est compétent, bienveillant et qu'il partage les mêmes valeurs. Donc le gouvernement est compétent, il va prendre les bonnes mesures, il est bienveillant au sens où il cherche à atteindre les bons objectifs, la santé et puis préserver l'économie, et puis on partage les mêmes valeurs. Donc c'est ça. C'est sûrement que
Marc
prime cette illustratrice.
Sarah Wilkins. Marc Ognadi, sur cette proposition de Claudia Sénic, justement.
Oui, quand je dis j'ai confiance, encore une fois, on est du côté simplement de la disposition, c'est-à-dire de la motivation à agir. On peut très bien dire que j'ai confiance et ne pas agir. On peut en revanche pas dire je lui fais confiance ou je lui ai fait confiance et ne pas avoir agi. Donc la confiance est une action. Donc moi je contesterais un peu cette vision, enfin j'élargirais un peu cette vision que vient d'exposer Claudia Sénic, c'est-à-dire sur la compétence, bienveillance, partage des valeurs. La confiance est essentiellement liée à des attentes de comportement, aux attentes de comportement que je peux nourrir à l'égard de quelqu'un si je suis dans une relation interpersonnelle. Mais c'est la même chose si je marche sur le sol, j'ai une attente de comportement du sol, hein, c'est pas du tout absurde, qu'il me soutienne de la même manière que je peux avoir l'attente de comportement que mon réveil matin me réveille à l'heure que j'ai indiqué.
Effectivement.
Exactement. Et donc, voilà, avoir confiance n'est pas forcément lié à des compétences, à la bienveillance, etc. Elle est liée d'une manière générale à des attentes de comportement que je peux nourrir et donc à tout ce qui peut nourrir des attentes de comportement. Et cet apport, si vous voulez, pour les attentes de comportement est infini. La palette est infinie. Il ne faut pas
limiter.
La limiter à la
compétence. Il y a bien la bienveillance, etc., etc., dans cette palette de comportement possible, de cette palette qui permet de nourrir le comportement.
Par exemple, dans la couverture du livre dont j'ai dirigé l'édition, on voit deux acrobates. L'un est suspendu par la pliure au niveau des genoux à une
C'est un trapèze.
Un trapèze, voilà, je l'ai pas sous les yeux. Et l'autre se jette dans le vide en tendant les bras, avec l'espoir ou la confiance dans le fait que l'autre va le rattraper. Donc il a confiance dans la dextérité, donc compétence, la bienveillance, etc. de l'autre. Et effectivement, comme vous dites, il agit, il se jette dans le vide.
Oui, oui, il est... je vous accorde que dans cet exemple, la compétence est de mise.
Il y a peut-être mais
vous voyez, un enfant qui fait confiance à ses parents. Oui. Vous voyez, c'est pas dans ces termes, c'est pas une compétence, c'est pas forcément une bienveillance, c'est autre chose. C'est un rapport plus fondamental. Mm-hmm. Et c'est pour ça. Et vous voyez, si vous limitez à la compétence, à la bienveillance, vous excluez la possibilité d'avoir confiance dans les choses, dans les objets techniques, dans tout le système numérique, par exemple.
C'est évidemment dans cet écran d'ordinateur que j'ai en face de moi. Voilà, mon smartphone exactement. Qui est à côté de moi, effectivement.
Voilà, il n'est pas bienveillant, il n'est pas compétent, c'est pas ce que vous attendez de lui. Donc, c'est pour ça que c'est très important de lier la confiance, comme j'essaye de le faire dans mon livre, au début est la confiance, de lier donc la confiance aux attentes de comportement. Ça me semble un geste philosophique fondamental.
Vous écoutez France Culture, le temps du débat, l'émission spéciale du temps du débat du vendredi, la conversation mondiale, vous l'avez compris, on parle de confiance en compagnie de Claudia Sénic et de Marc Uniadi.
France Culture. On va commencer ça en mondial, ou t'es un peu de débattre.
Dans votre livre, Crise de confiance, que vous avez dirigé, Claudia Sénic, il y a donc une douzaine d'études autour de cette question de la confiance. Et la plupart d'entre elles essayent, à partir de cas, d'études de cas, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Dans une d'entre elles, Alexis Speer, que l'on connaît bien pour ses travaux, en particulier sur l'immigration, sur la société et l'économie de la société, dit qu'il y a deux types de confiance que je ne connaissais pas, enfin, qui s'appellent l'une la confiance abstraite et l'autre la confiance pratique dans les institutions. Donc, il y en a qu'une qui s'appelle confidence, en anglais, et l'autre qui s'appelle trust. Trust, c'est d'ailleurs le titre qu'a donné à son illustration notre Sarah Wilkins qui est intervenue sur le site de France Culture.
Oui, dans cet article, Alexis Speer montre que la confiance que les gens peuvent déclarer a priori dans les institutions telles que la police, la justice ou même le fisc peut différer de ce qu'ils déclarent a posteriori après avoir eu l'expérience, la pratique de ces institutions. Et que la pratique peut changer leur vision de ces modalités. Par exemple, c'est assez étonnant, mais les gens qui ont eu affaire au fisc ont une plus grande confiance dans cette institution que ceux qui n'y ont pas affaire, etc. Donc, ils trouvent que finalement, l'expérience et la confiance a priori et la confiance a posteriori reflètent des choses différentes. La première reflète une attitude générale vis-à-vis des institutions et l'autre reflète plus une appréciation de pratique.
Oui, Marc Uniadi.
Oui, effectivement, disons, cet article, par exemple, de Speer et beaucoup d'autres sont illustratifs de l'extraordinaire disparité, en fait, qui caractérise le concept de confiance dans la littérature. Dans un autre article, quelqu'un parle d'une confiance cléricale, d'une confiance pragmatique, d'une confiance professionnelle, d'une confiance affinitaire, d'une confiance rationnelle. Vous voyez, bon, on s'en sort pas. Il y a une disparité.
Vous n'aimez pas les classifications, vous voulez ramener à quelques points centraux et nodaux autour de la question de la confiance, Marc Uniadi.
Oui, c'était un peu mon travail de philosophe, si vous voulez. J'ai voulu faire un peu table rase de cette disparité pour unifier le concept de confiance autour d'une définition qui me semble être, au fond, une structure fondamentale de la confiance qui ensuite se décline de plein de manières différentes. Je voulais donc faire une théorie unifiée de la confiance autour de cette définition de la confiance comme pari sur les attentes de comportement. Pari sur les attentes de comportement. Alors, par exemple, pour une institution, c'est ce dont on parlait maintenant, eh bien, que ça soit la police, la justice ou d'autres, la confiance qu'on peut mettre en elle se définit comme la capacité pour cette institution d'être à la hauteur
de ce qu'on attend d'elle.
De ce qu'on attend d'elle, qui sont évidemment des attentes normatives, si vous voulez. On attend de la justice qu'elle soit impartiale, de la police qu'elle soit égalitaire, etc., etc.
Ouais, sur ce point, Claudia Sénic.
Oui, non, mais on est complètement d'accord. Enfin, le mot-clé en économie, c'est anticipation. Tout ce qu'on fait, enfin, le modèle de l'action économique, c'est j'anticipe, et puis après je choisis, et puis j'agis, et après je regarde si mes anticipations étaient correctes, on dit que je suis en équilibre, ça veut dire que je ne regrette pas et je vais continuer à agir de la sorte. Donc je suis bien d'accord que l'anticipation, c'est vraiment et la confiance, c'est le fait de pouvoir anticiper correctement. Mais dans la confiance, il y a quand même quelque chose d'un peu plus normatif. Par exemple, si on sait avec certitude que quelqu'un va va tricher dans une relation, on peut le savoir et on peut l'anticiper correctement. Pour autant, on lui fait pas confiance. Donc.
Oui, c'est précisément sur ce point que je serais en désaccord, si vous voulez, avec cette approche quand même économiste, même si j'entends bien que vous avez une vision élargie, mais une attente. Moi, je parle d'attente. C'est très important. Et une attente n'est pas une anticipation. Une attente n'est pas une anticipation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose phénoménologiquement. Voilà. Une attente, c'est quelque chose de normatif à quoi on est légitimement justifié d'attendre, d'escompter, en quelque sorte. Ce qui est tout à fait autre chose que de faire une anticipation sur le futur, qui est toujours une hypothèse sur quelque chose qui va se passer. En faisant confiance, on ne fait pas une hypothèse. On peut le faire, mais ce sont des cas extrêmement restreints. On ne fait pas une hypothèse. Quand je marche dans la rue, je ne fais pas l'hypothèse calculée en quelque sorte, n'est-ce pas, et réflexive que le sol va me soutenir. Non, je m'attends à ce qu'il qu'il me soutienne. Et s'il ne le fait pas, ce qui peut arriver, alors je suis confronté à une surprise. Mm-hmm. Voilà. La surprise est précisément ce qui dément nos attentes de comportement. Si la clé se casse dans la serrure, eh bien, c'est une surprise parce que je m'attendais, sans y penser, sans y réfléchir, je m'attendais à ce que je puisse ouvrir la porte.
Alors, revenons à cette question de la crise de la Covid, si vous voulez bien, Marc Hunyadi et Claudia Sénic. Vous l'avez juste brièvement évoqué, Marc Hunyadi, tout à l'heure, la question des vaccins est très importante dans notre société. On les attend parce qu'ils seront nombreux, ces vaccins, dans notre société. Claudia Sénic, qu'est-ce que ça nous dit de la question de la confiance? On voit effectivement, comme le disait Marc Hunyadi tout à l'heure, eh bien une montée à la fois des espoirs, mais aussi des angoisses de ceux qui disent « je ne me ferai pas vacciner ». Qu'est-ce que ça nous dit de cette question de la confiance telle qu'elle est dans les institutions, qu'elle soit médicale, pharmaceutique, étatique, etc. etc.
Ça me fait penser, j'ai vu une petite illustration humoristique. On voyait quelqu'un qui disait « Bonne nouvelle, on a trouvé un vaccin, on va pouvoir le refuser ». Donc, le vaccin, l'acceptation du vaccin repose dans la confiance dans la science, dans la recherche médicale, dans les laboratoires. Alors, les gens, évidemment, on n'aura pas beaucoup de recul, donc on peut se demander à juste titre s'il n'y aurait pas d'effets secondaires au bout d'un certain temps. Je n'ai pas développé ce point, mais évidemment, le refus des vaccins procède de ce refus d'accepter finalement la méthode d'établissement de la vérité, enfin une vérité même temporaire, par laquelle procède la science.
Et puis ça pose une autre question qui est très importante dans la question de la confiance, Claudia Sénic, c'est qui va faire confiance en premier? C'est-à-dire qui va y aller?
Oui.
Pour se faire vacciner en premier, au risque peut-être, comme vous le disiez, qu'il y ait des effets secondaires, qu'on ait trop fait confiance à tel ou tel laboratoire. Et ensuite, effectivement, d'autres pourront y aller. Mais c'est une question, là, celui qui donne sa confiance en premier, c'est extrêmement important.
Exactement, parce que c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire que si beaucoup de gens se font vacciner, le virus disparaît. Et si les gens ne se font pas vacciner, il subsiste. Et c'est pour ça que les virus ne sont jamais complètement éradiqués. Parce que quand une maladie disparaît, du monde, plus personne n'est motivé pour se faire vacciner contre cette maladie et parfois elle réapparaît comme la tuberculose ou la rougeole. Donc c'est très important, c'est un acte presque
de courage. C'est-à-dire qu'on pense à soi et on pense aux autres, on imagine qu'on n'est pas seul au monde, Marc Hunyadi.
Oui, exactement. C'est-à-dire que, au fond, moi, je trouve, il y a beaucoup à dire sur les questions de la vaccination, notamment autour, par exemple, de la question de l'obligation ou de la recommandation. Cette tension qu'il y a entre les deux.
On avait l'autre jour, effectivement, Alain Fischer qui disait, il faut peut-être éviter d'obliger les gens à se vacciner parce que ça aura peut-être des effets, là aussi, secondaires, enfin, des effets induits que l'on n'imagine pas.
Alors ça c'est une des raisons, c'est un argument scientifique si vous voulez pour dire que bon tout ça s'est passé de manière tellement rapide que attendons quand même un peu, restons prudents pour voir les effets secondaires. Mais à mon avis il y a une raison.
Il le disait aussi politiquement, il disait en fait si on le fait, si on oblige les gens, eh bien ça va peut-être les braquer, ils vont pas pouvoir y aller, pas vouloir y aller, comme le disait Claudia Sénic à l'instant.
C'est plutôt à l'autorité médicale finalement de s'engager en garantissant autant qu'elle le peut l'innocuité et l'utilité du vaccin.
Marc Hunyadi.
Oui, donc ça, ce sont des considérations stratégiques aussi, elles sont toutes, et de communication et de stratégie, elles sont extrêmement importantes. Mais moi, je trouve qu'il y a une question, au fond, très fondamentale autour de cette question de l'obligation. C'est la question de savoir, au fond, comment est-ce que le gouvernement, les autorités sanitaires s'adressent à leurs citoyens. C'est-à-dire, évidemment, si on les obligeait à se vacciner, on voit bien que c'est quand même un geste fondamentalement paternaliste qui infantilise donc les citoyens. Au contraire, les gouvernements français et belges aussi d'ailleurs ont choisi de laisser le libre choix, ce qui me semble vraiment une très sage décision, dans la mesure où ils veulent agir sur la motivation, ils veulent se donner tous les moyens pour agir sur la motivation des citoyens à aller eux-mêmes par libre choix se faire vacciner. Donc ça c'est une chose très importante. Mais l'autre chose qui me semble aussi très importante par rapport à ce vaccin, je suis un peu stupéfait à vrai dire de cette vague de méfiance à l'égard de la vaccination.
Elle n'est pas nouvelle.
Elle n'est pas nouvelle. Elle a toujours existé. Mais il me semble qu'elle est très caractéristique, très symptomatique au fait du fait que l'individu contemporain, en quelque sorte, le citoyen individu contemporain, a de plus en plus de peine à penser collectivement. Il se trouve que pour la question du vaccin, le point de vue adéquat pour réfléchir à la question du vaccin n'est pas le point de vue du « je », hein, qui mesure pour lui les risques et conséquences possibles d'un vaccin qui aurait effectivement peut-être quelques effets secondaires. Mais le bon niveau de raisonnement, c'est de réfléchir à partir du point de vue collectif, qui est le point de vue donc de l'intérêt de la communauté. Or, l'individu nominaliste contemporain, ce que j'appelle l'individu cockpit, hein, qui est en quelque sorte
dans son cockpit, dans sa... derrière ses écrans.
Exactement, gérant au fond ses relations au monde à travers les informations qu'il en reçoit, gérant souverainement ses informations au monde, eh bien cet individu-là a de plus en plus de peine à adopter un point de vue collectif, à penser collectivement.
Claudia Sénic, qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée d'être effectivement individu cockpit, d'être très individualisé
C'est ce que j'essayais d'évoquer juste avant, c'est que il y a... Il y a des raisons individuelles de se faire vacciner et il y a des raisons collectives, puisque quand les gens se font vacciner en masse, le virus tout simplement disparaît. Lors de la dernière épidémie, enfin, on pensait qu'il y aurait une épidémie, le SRAS, celui d'avant, là, je ne sais plus comment il s'appelait, le gouvernement avait mis en place des dispositifs extrêmement ingénieux qui répondent bien aux problèmes comportementaux, enfin, qui sont mis en évidence par l'économie comportementale, les problèmes de procrastination. Donc, je dois me faire vacciner, mais qu'est-ce que je fais? Je dois aller chez le médecin, il va me faire une ordonnance, faut que je prenne rendez-vous, etc. Pas du tout. En fait, lors de la dernière épidémie, on recevait une convocation pour aller à un endroit, à une certaine heure, et on n'avait plus qu'à y aller. Et ça facilite énormément les choses.
Mais ça n'a pas très bien marché, justement.
Enfin, de toute façon, finalement, il n'y a pas eu trop d'épidémies, donc on a reproché au gouvernement d'avoir trop agi. Ouais. Mais bon, indépendamment de ça, je pense que pour surmonter cette réticence, organiser les choses de cette manière-là avec un rendez-vous comme ça pourrait marcher.
Oui, parce que il y a aussi cette idée effectivement que plus les gens ont confiance, moins il y a de morts et de récession, c'est ce que vous disiez tout à l'heure votre exemple, et donc on pourrait se dire que c'est un intérêt qui nous pousse aussi à aller nous faire vacciner, parce que si on a confiance dans cette vaccination, eh bien, on ne sera pas du nombre des futures victimes, par exemple.
Voilà, on ne sera pas du nombre des victimes, il y aura moins de victimes, du coup, il y aura moins de mesures restrictives, donc l'économie repartira et ça sera bon pour tout le monde.
Mais néanmoins, ça ne va pas tout à fait dans votre sens, Marc Hunyadi, parce que vous dites depuis le début, et dans votre livre Au début et la confiance, qu'il faut absolument, selon vous, en tant que philosophe, délier la confiance du calcul. Quand on va se faire vacciner, c'est qu'on fait un calcul tout de même.
Ce que je veux dire, c'est quand je dis qu'il faut délier effectivement la confiance du calcul, je ne veux pas dire que le calcul n'a aucun rôle dans la confiance. Pas du tout. Mais simplement, c'est une des motivations. Alors, en l'occurrence, pour le vaccin, effectivement, le calcul entre en compte, parce que c'est quasiment statistique. Il y a cette guerre des chiffres là autour de
90%,
94,8, 95, et puis on va arriver à 130 bientôt. Donc, je veux dire, évidemment que le calcul peut jouer, mais le calcul joue son rôle du côté de la motivation, c'est-à-dire que c'est un des arguments possibles pour faire confiance. C'est un des arguments qui nous permet d'avoir confiance pour faire confiance, c'est-à-dire pour se faire vacciner. Oui. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à toutes ces dispositions administratives qui avaient été prises pour la grippe aviaire précédente et qui n'ont finalement pas marché. Ça montre bien que, par exemple, dans la relation médicale, le médecin de famille peut jouer un rôle, ou joue même un rôle tout à fait essentiel dans la confiance qu'on peut avoir dans l'institution plus abstraite de la science, si vous voulez. Si le médecin se fait médiateur, et vous le recommande, parce que précisément vous lui faites confiance, eh bien, évidemment, la confiance dans le vaccin sera d'autant plus grande, bien plus grande que si c'est une administration anonyme qui vous convoque pour vous vacciner.
Claudia Sénic, il y a tout de même quelque chose de très intéressant qui est apparu nouvellement dans un article d'Esprit récent. Roberto Frega dit, on se pose toujours la question de la confiance que le citoyen a dans ses institutions. Mais ce qu'on a vu naître, c'est la défiance de l'État vis-à-vis de ses propres citoyens. On a vu dans beaucoup de pays, effectivement, et on peut dire que d'une certaine manière, au moment de la crise des Gilets jaunes, il y avait cette défiance de l'État vis-à-vis de certains de ses citoyens. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? C'est assez intéressant de se méfier de ceux qui pourtant, par leur vote, ou auraient pu, ou ont voté pour vous, par exemple.
Bah, c'est que certains citoyens, enfin maintenant... beaucoup de pays sont devenus ingouvernables, en fait. Il y a un ouvrage récent que j'aime bien de mon collègue Pierre-Henri Tavoyot, qui est professeur de philosophie, en fait, à la Sorbonne, qui a écrit « Comment gouverner un peuple roi ?» et qui montre que la grande difficulté, en fait, maintenant, c'est d'accepter de se laisser gouverner. Donc, effectivement...
Mais c'est ce même gouvernement...
Donc, du point de vue du gouvernement, on peut ne pas avoir confiance dans le fait qu'on va pouvoir mettre en œuvre des mesures pour lesquelles... pourtant, on a été élus.
Ouais. Oui, parce que c'est ce même gouvernement, ou ce sont ces gouvernements qui, par exemple, ont décrété qu'il y avait une loi sur la confiance dans la vie politique, par exemple. C'était assez étrange de se dire que ça s'appelle comme ça, la loi sur la confiance, ou encore, on voit les journaux qui décrètent les codes de confiance que l'on a vis-à-vis de ces gouvernants, mais on pourrait avoir des codes de confiance inverses des gouvernants vis-à-vis de leur population.
Je crois que c'est pour activer cette notion, c'est pour montrer qu'on essaye de jouer sur ce levier et qu'on reconnaît l'importance de cette notion. Et qu'on voudrait effectivement pouvoir bénéficier de cette capitale.
De ce capital, effectivement, qu'est la confiance. Marc Cuniadi, sur cette question du renversement, pourrait-on dire, des polarités, pourrait-on dire, avec un gouvernement qui pourrait se méfier parfois de ses propres citoyens.
Oui, c'est très intéressant. Je pense que ça met en jeu tout le système de la représentation politique, hein, de tous ces rouages, en fait, qui semblent bien grippés. Moi, j'ai trouvé que la réponse, si vous voulez, de Macron avec le grand débat par rapport au Gilets jaunes était la bonne réponse, en tout cas formellement. Maintenant, le problème, c'est que réellement, est-ce que Macron a vraiment écouté ce qui s'est dit? Ça, c'est une autre question. Tout ça s'est passé très vite, etc. a été, au fond, assez formel, c'était une immense machine très difficile à mettre sur pied et il n'est pas sûr que en fait elle a eu, je crois qu'il y a eu 2 millions de contributions sous toute forme dans ce grand débat. Je ne suis pas sûr que simplement qu'elles aient été entendues, mais donc il y a quelque chose de grippé là dans le mécanisme de représentation et de communication. Maintenant, d'un autre côté, les citoyens évidemment ont des raisons de se méfier d'un gouvernement si vous voulez, la principale attente de comportement qu'il lié à un gouvernement, c'est qu'il soit en capacité d'agir. Or, cette capacité d'action lui est déniée jour après jour par les grandes multinationales, par la mondialisation, par la privatisation tendancielle de la politique. On parle maintenant, il y a un concept comme ça en philosophie politique qui est la démocratie conforme au marché. C'est ce que nous sommes en train de faire, une démocratie conforme au marché. Mais ça veut dire aussi que c'est le marché qui gouverne. Donc, par rapport à tous ces mouvements qui, en fait, dépossèdent les citoyens, évidemment, il y a une très forte méfiance, et cette méfiance est réciproque.
Merci à tous les deux. Je rappelle, Claudia Sénic, que votre livre que vous avez dirigé, donc avec 12 études extrêmement passionnantes sur la question de la confiance, Crise de confiance au pluriel, est donc à publier la semaine prochaine aux éditions La Découverte dans la collection Fondation pour les sciences sociales Recherche, et que le vôtre vient juste d'être publié au bord de l'eau, Marc Cuniadi. Il s'intitule Au début et la confiance. Merci d'avoir dialogué au temps du débat dans ce cadre de conversation mondiale. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Rémi Baye, Fanny Richer, Imane Gilles. À la technique avec nous, Alexandre Dang. À la réalisation, Asia Ralid. Demain, eh bien, vous le savez, à 18h10, Raphaël Bourgois, pour le temps du débat du samedi, sera consacré au vote par correspondance comme fausse bonne idée ou vraie solution. On y parlera sûrement là aussi encore de confiance dans le vote avec la députée LREM Yaël Braun-Pivet, le professeur de droit public Romain Rambaud et le professeur de sciences politiques Céline Braconnier. dîner. C'est à 18h10. Dans 3 minutes, vous allez retrouver Affaires culturelles avec Arnaud Laporte en compagnie ce soir du réalisateur David Cronenberg. On l'attend. Et puis, il est 19h sur France Culture. Et à 19h, ce sont les titres de l'actualité avec vous, Marie-Hélène Duvigneau. Bonsoir.